France Inter, le 7-9, Nicolas Demorand.
Et l'invité de France Inter jusqu'à 9h est ancien juge d'instruction, spécialiste des affaires financières. Il dirige aujourd'hui l'Agence française anti-corruption, l'AFA. Je vous salue Charles Duchesne, bonjour.
Bonjour monsieur.
Et merci d'être au micro d'Inter. Vous êtes rare dans le débat public. Ce matin, la ministre de la Justice, Nicole Belloubet, le ministre de l'Action et des Comptes Publics, Gérald Darmanin, seront à l'Agence française anti-corruption. C'est une institution jeune, toute jeune, qu'on connaît peu, voire pas du tout. Quel est son but ?
Alors c'est une institution toute jeune qui a été créée par la loi du 9 décembre 2016 et qui existe physiquement, j'allais dire, depuis ma nomination à la direction, à sa direction depuis le 17 mars 2017. Son but est essentiellement d'accompagner les personnes privées ou publiques, physiques ou morales, c'est-à-dire en un mot tout le monde, dans les démarches de prévention et de détection de la corruption. J'insiste parce que c'est vraiment quelque chose qu'il faut avoir à l'esprit, que c'est une agence qui est rattachée en effet au garde des Sceaux, ministre de la Justice et au ministre de l'Action et des Comptes Publics, mais qui n'a pas de fonction judiciaire. Elle est totalement située dans des fonctions de prévention.
Comment vous faites alors ?
Ben pour l'instant, on s'organise, c'est-à-dire que on a
deux. Vous êtes tout jeune, hein.
On est tout jeune, on s'organise, on se construit. La construction est, j'allais dire, physiquement à peu près achevée. Nous avons deux missions essentielles, donc une mission de prévention qui consiste à aider, notamment à prévenir les questions de corruption. Vous savez, c'est un peu comme. C'est un peu comme en matière médicale. On n'attend pas forcément d'être malade pour aller consulter. Il est parfois utile de faire un bilan et de le faire régulièrement. Donc l'idée, c'est de prévenir la corruption dans les grandes entreprises et dans les administrations publiques en mettant en place des dispositifs collectifs qui, évidemment, n'empêchent rien, mais évitent à l'entreprise de s'exposer involontairement à des propositions de corruption extérieures, par exemple.
Mais donc, vous faites quoi ? De la pédagogie, comme on dit toujours maintenant ? Vous allez voir les administrations ? Comment ça se passe ? Alors, vous allez voir les administrations, les entreprises, vous dites « Ah, attention !» Ou les entreprises viennent vous voir, je fais un check-up, là, je sens que je suis un peu en train de corrompre ou d'être corrompu. Je comprends pas.
Alors, la première idée, si vous voulez, c'est de... et la loi, d'ailleurs, nous y encourage, c'est l'article 17 qui le prévoit, c'est de mettre en place un certain nombre de mécanismes, c'est-à-dire d'abord évaluer le risque, c'est-à-dire dessiner une carte graphie des risques au sein de l'entreprise ou au sein de l'administration concernée.
En disant là, attention, appel d'offres, marché public, là ça peut, il faut regarder, c'est ça.
Exactement, hein, il y a des points qui sont plus sensibles que d'autres et donc chaque entreprise, chaque entité, chaque organisation, qu'elle soit privée ou publique, doit, j'allais dire, analyser, décortiquer ses process de façon à voir où sont les risques. Évidemment, il ne s'agit pas de retenir les risques les plus infimes, il faut retenir les risques qui sont raisonnables parce que on ne peut pas embrasser absolument tous les risques. Et à partir de là, mettre en place des dispositifs dans son organisation qui sont de nature, non pas à éviter totalement, on n'évitera jamais totalement tous les risques, mais à éliminer les risques les plus importants de corruption. Donc par des mécanismes de contrôle interne, de formation des personnels, par des mécanismes de la mise en place d'alertes internes qui permettent aux salariés, aux fonctionnaires de révéler des faits qui leur paraîtraient suspects ou qui leur paraîtraient tout simplement caractériser des faits de corruption au sens large. Et puis nous avons aussi une deuxième mission qui est importante, c'est une mission de contrôle, c'est-à-dire que nous devons aller dans ces entreprises et dans ces administrations pour vérifier si ces mécanismes ont été mis en œuvre, effectivement, et s'ils sont pertinents, surtout s'ils sont sincères et efficients, parce qu'il ne s'agit pas de faire de la cosmétique en mettant en place un certain nombre de règles qui facialement donneraient satisfaction à tout le monde, mais qui finalement ne serviraient à rien.
Charles Duchesne, vous avez dit à plusieurs reprises, entreprise, administration, ce sont les deux espaces premiers de la corruption en France, y compris l'administration ?
Vous savez, la corruption, c'est une relation coupable qui se noue entre deux ou plusieurs personnes, et généralement entre une personne privée et une personne publique. Alors, il peut y avoir de la corruption publique ou privée-privée, mais en général, ceux qui ont le pouvoir économique voudraient avoir le pouvoir de décision, le pouvoir administratif ou le pouvoir politique. Donc, la relation se noue comme ça. Donc, ça concerne en effet les deux acteurs, et ce serait, à mon avis, une très mauvaise idée de vouloir mettre la corruption simplement d'un côté ou simplement de l'autre, parce que ça serait traiter le problème à moitié et donc pas du tout.
Est-ce qu'en France, on parle d'une corruption massive ou d'une corruption du quotidien, si j'ose dire ? Est-ce que ce pays, notre pays, est un bon élève au regard de démocraties comparables ?
Non, il n'y a pas de silence, simplement une réflexion, parce que la question est complexe. La corruption, vous savez, c'est un peu comme la température, on la ressent ou on la mesure. En France, on la ressent pas, fort heureusement, mais ça pourrait venir. Il suffirait qu'il y ait une dégradation du climat social pour que la corruption se ressente davantage, si vous voulez. On a la chance de ne pas la ressentir. Alors, quand on ne ressent pas les choses, si vous voulez, c'est un peu comme la maladie, j'y reviens, pardonnez-moi. Mais soit on pense que simplement les autres peuvent être malades et que soi-même on est forcément à l'abri, soit au contraire, on devient un peu hypochondriaque et on se dit que finalement on est forcément malade, même si on s'en rend pas compte. Alors ça va du... Chez nous, il n'y a pas de corruption, monsieur, ou alors tout se pourrit, si vous voulez. Alors, la réalité, elle se trouve sans doute entre les deux. La difficulté, c'est que le baromètre, nous ne l'avons pas. Le seul baromètre que nous avons, parce que la corruption est une infraction souterraine, silencieuse, le seul baromètre que nous ayons, c'est celui des poursuites et des condamnations pénales. Et actuellement, probablement que ces condamnations sont en deçà de la réalité. Ce qui fait passer la France pour un mauvais élève. Je dirais pas que la France est un mauvais élève en termes de commission d'actes de corruption. Il y en a comme ailleurs. Je dirais simplement que nous sommes peut-être un mauvais élève, en termes de traitement et de sanctions des actes de corruption.
Quand on regarde les Paradise Papers, quand on regarde, et c'était il y a pas si longtemps que ça, l'affaire Cahuzac, vous dites quoi exactement? Qu'on a eu là deux accès de fièvre ou au contraire que c'est une dégradation générale de l'état de santé et du tissu économique?
C'est une dégradation générale qui n'est pas nouvelle, que les spécialistes ne peuvent pas ignorer, c'est pas nouveau. C'est un peu mon dada, je ne voudrais pas glisser vers ça et faire passer des idées personnelles. Je suis pas d'accord.
Non, mais allez-y, dites-nous.
Mais si vous voulez, c'est pas une nouveauté qu'il y a un certain nombre de pays qui génèrent des outils pour tricher. J'allais dire à la satisfaction de tous, si vous me permettez l'expression, parce que jusqu'à maintenant, personne n'a véritablement réagi. On parle de paradis fiscaux. Je ne sais pas trop ce que c'est qu'un paradis fiscal. Moi, je connais les enfers judiciaires, c'est-à-dire les endroits où on n'obtient pas la coopération, si vous voulez. Et nous en avons très près de nous. Et il me semble qu'aujourd'hui, on devrait mettre un terme à ça. Alors, ça commencerait peut-être, effectivement, par un alignement de l'impôt. Et donc, on supprimerait les paradis fiscaux. On n'aurait pas la tentation d'aller ailleurs chercher ce qu'on ne trouve pas ici, si on était tous soumis au même régime fiscal. Mais je crois surtout qu'il faudrait s'élever contre des pratiques qui consistent à fournir une ingénierie pour faciliter les infractions. C'est-à-dire les places offshore, tous les mécanismes offshore, dont certains vous diront qu'ils présentent un intérêt majeur pour l'économie mondiale. J'ai surtout eu l'occasion de les rencontrer dans des montages astucieux de fraude fiscale, de blanchiment ou de corruption.
Quand on voit les Panama Papers, les Paradise Papers, nous sommes profanes et pour les Paradise Papers, on a beaucoup entendu « bon, c'est légal, c'est de l'optimisation fiscale, on ne peut pas vraiment y faire grand chose », mais vous, Charles Duchesne, vous entendez et vous voyez corruption derrière ça.
Pas simplement corruption. Si vous voulez, il faut être clair sur les termes. Qu'est-ce que c'est que l'optimisation fiscale? L'optimisation fiscale, c'est quelque chose de légal. Ça consiste à utiliser habilement, finement, les règles fiscales, parfois contradictoires, de façon à payer le moins d'impôts possible. C'est blâmable sur un plan moral, sans doute. Ce n'est pas en soi illégal. Où c'est plus inquiétant, c'est lorsque les organisations privés d'une manière générale, utilisent des structures pour se dissimuler derrière. Ça peut être des sociétés offshore, ça peut être des comptes ouverts par ces sociétés offshore, et utilisent des circuits et des canaux pour dissimuler leurs opérations. Ça n'est pas légal, ça n'est pas acceptable. Et la difficulté, si vous voulez, c'est que certains diront que c'est utilisé pour les affaires. Je veux bien, mais en général, pour les affaires pas très claires, si vous voulez. Et ces tuyaux, si vous me permettez l'expression, ces formes de pipeline, ça sert à tout. Ça peut servir d'ailleurs à des activités légales et à des activités illégales. Souvent, d'ailleurs, les blanchisseurs utilisent des canaux d'activités légales pour faire pour générer leur flux financier, enfin pour faire circuler leur flux financier. Et derrière ces instruments, vous avez forcément des transferts de fonds qui peuvent servir à la fois à du blanchiment, à du financement du terrorisme, à de la fraude fiscale et évidemment à de la corruption.
Est-ce que vous, à l'Agence française anticorruption, vous avez le moindre pouvoir sur ces sujets, ce que vous venez de décrire?
Non, l'Agence française anticorruption a des pouvoirs de contrôle, mais qui portent sur la vérification des mécanismes préventifs. Alors naturellement, à l'occasion d'un contrôle dans une entité quelle qu'elle soit, et à l'occasion de la vérification de l'existence et de l'efficience de ces mécanismes préventifs, on pourrait être amené à détecter ou à déceler des opérations anormales qui puissent avoir recours à ce type de montage.
Et là, vous faites quoi, là?
À ce moment-là, on fait ce que tout fonctionnaire ou toute institution publique est tenue de faire. C'est un devoir, hein, ce n'est pas un droit, c'est une obligation. Eh bien, on dénonce les faits au parquet. Quand je dis au parquet, c'est avec un X. C'est au parquet national financier et éventuellement... au parquet territorialement compétent.
J'arrive pas, mais on va pouvoir y revenir en détail, à savoir si vous êtes un grand frère accommodant qui peut mettre une tape dans le dos ou un gendarme avec un énorme bâton qui frappe sur la tête de ceux qui fautent.
Bah, on est conçu pour être les deux à la fois.
C'est possible, ça? C'est efficace?
Je pense même que c'est nécessaire. On est un grand frère puisqu'on conseille et qu'on donne un certain nombre de recommandations. Publier sous peu un avis au journal officiel concernant nos recommandations adressées à la fois aux grandes entreprises qui sont soumises à une obligation, mais également à tous ceux qui voudront bien les appliquer sans pour autant être soumis à cette obligation. On est là dans un rôle de conseil bienveillant, où l'on donne même aux personnes concernées la possibilité, j'allais dire, de se remettre sur le droit chemin si besoin est. Et puis, on a aussi des pouvoirs de contrôle avec une capacité de sanction. Alors, je n'ai pas, moi, cette capacité de sanction, même si je peux délivrer un avertissement sans frais. Mais si des manquements sont constatés dans la mise en œuvre des mécanismes de prévention, je peux saisir la commission des sanctions au sein de mon agence et demander à ce que des sanctions pécuniaires ou l'obligation de se soumettre à un programme de conformité soient imposées à l'entreprise.
Vous aviez plus de pouvoir quand vous étiez juge d'instruction?
Plus de pouvoir, oui, puisque je détenais en quelque sorte une partie de cette capacité de poursuivre et de renvoyer les personnes concernées devant une juridiction pénale, répressive, mais en même temps sans doute moins de prise sur l'événement, parce que je m'intéressais à des situations, j'allais dire dossier par dossier, de façon très ponctuelle.
Alors que là, c'est le système.
Alors que là, nous avons évidemment une prise plus forte sur le système, en effet.
On vous retrouve après la revue de presse, Charles Duchesne, 01 45 24 7000 pour toutes vos questions. Et pour le dialogue, vous pouvez également passer par Twitter avec le mot-clé le 79 Inter, par la page Facebook de France Inter. Claude Ascolovitch, bonjour.
Bonjour Nicolas.
La revue de presse avec un homme qui expose sa souffrance à la une du Courrier Picard.
Il s'appelle Jean-Michel Blairet, cet homme. Il s'expose sans honte, le visage tordu, le rictus déséquilibré, une orbite vide, défiguré après une opération ratée. C'est le titre de une du Courrier Picard. En 2010, Jean-Michel Blairet était gêné par une narine bouchée et un éminent chirurgien d'Amiens lui avait parlé d'une petite tumeur. On va passer soit sous la peau, soit par la bouche. J'y suis allé en toute confiance, raconte Blairet. Quand je me suis réveillé, j'avais la figure ouverte en deux et cela avait été fait sans mon autorisation. Il va ensuite apprendre que cette petite tumeur en réalité était cancéreuse et d'hésitation en retard de diagnostic, il va finir par être opéré à nouveau en urgence à Rouen. Sinon, dans 2 mois, c'est fini pour vous, lui dit-on alors. On m'a retiré l'œil gauche, la moitié du palais et je n'ai plus d'odorat. Depuis 7 ans, j'endure des souffrances en continu. Mais il lui est resté, Nicolas, l'envie de se battre et... Au mois de novembre dernier, la cour d'appel de Douai a confirmé un jugement. L'hôpital d'Amiens lui doit 230 000 euros pour le préjudice. Et ici est l'information dans cette victoire d'un homme face à une institution médicale. Et cette victoire fait écho à toutes les mauvaises ondes qui entourent nos hôpitaux ce matin. On en parle dans les échos de manière comptable. Le déficit estimé des hôpitaux publics est estimé à 1,2 voire 1,5 milliard en 2017. Le gouvernement prépare un plan. L'impératif d'économie demeure. Oui, mais cet impératif fait parfois craquer ceux qui font tourner la machine. L'Humanité publie ce matin la lettre de deux pédiatres du CHU de Grenoble. Elles ont été arrêtées pour épuisement professionnel. On leur reprochait de faire perdre de l'argent à leur hôpital en, par exemple, recevant trop longuement leurs patients. La Provence raconte l'inquiétude de médecins réanimateurs du centre hospitalier d'Aubagne. Eux pensent qu'on veut transférer la réanimation au privé. Et dans Ouest-France, on apprend que les urgences qui étouffent sont en grève à Cherbourg. Voilà, vous avez l'hôpital public, ce mammouth en souffrance, et des individus pris au piège, et parfois la tragédie d'un homme.
Oui, on parle aussi, Claude, de solidarité dans les journaux.
Et c'est la même histoire, Nicolas, d'individus qui s'animent en face de grandes logiques collectives. Par exemple, c'est dans Ouest-France, à Ouistreham, où convergent les migrants. Ouistreham, qui a peur de devenir le nouveau Calais. Il y a Francine, qui distribue du café à ses ombres emmitouflées, qui sont des êtres humains. Elle leur achète des gants et des bonnets, des chaussures, et elle se fait enguirlander par un jogger qui passe. Francine, c'est une honte ce que vous faites. Vous n'avez qu'à les prendre chez vous. Et Francine, dans Ouest-France, fait écho à ce qu'on raconte dans l'Opinion, dans le Figaro, la splendide politique où s'oppose la fermeture du ministre de l'Intérieur Gérard Collomb et les inquiétudes des associations. Voilà, on parlait ici des migrants, mais quand on arpente la presse, on trouve d'autres gestes dans une société qui combat son atonie. Dans le Bien Public, on voit ainsi une femme, Fatima Ziani, qui distribue en famille des repas aux SDF dans les rues de Dijon. Elle est sourmuette en plus et on la voit coiffée d'un bonnet de Père Noël dans une vidéo joyeuse qu'elle poste quand elle prépare sa tambouille. Dans Nice Matin, on raconte, et là c'est une tristesse, la fin d'une épicerie solidaire à Nice dans le quartier des Moulins. Il pleure dans mon cœur comme il pleut sur la ville, raconte une maman de ce quartier populaire. Elle a appris Verlaine grâce à une association Dialogue qui nourrissait les cœurs et aussi les corps, mais qui désormais n'a plus d'argent pour son épicerie. On a le sentiment, à lire la presse, Nicolas, que partout se cache un combat à mener. La Croix nous emmène, superbe reportage, dans la maison d'arrêt de Nanterre, surpeuplée. On nous montre 4 détenus qui vivent dans une cellule de 12 mètres carrés où il n'y a que 3 lits. Le dernier arrivé dort par terre. C'est normal, dit-il, normal. Enfin, parfois, la solidarité est joyeuse et festive. Tous ensemble, tous ensemble. Vous lirez dans la Nouvelle République et dans l'équipe comment les citoyens sportifs de Tours, supporters de l'équipe de volleyball locale, se mobilisent pour Nathan Vounembeina, meilleur joueur de l'équipe et victime d'injures racistes dans un match européen au Pirée en Grèce. Le match retour est ce soir et ce sera aussi un moment d'humanité.
Et puis une polémique politique est résolue dans le quotidien Le Monde.
Espérons-le, une polémique poisseuse qui dure depuis des semaines à propos d'un supposé racisme d'État qui sévirait en France. Un racisme d'État que combattent des associations qui organisent du coup parfois des débats réservés à ce qu'elles appellent les racisés. Comprenez des gens pouvant être victimes de racisme. Et le fait qu'on organise des réunions interdites aux Blancs provoque des scandales en retour. Eh bien, Le Monde ouvre tout le dossier, remet tout à plat et surtout interview un homme, un universitaire, Pape Ndiaye, qui, si j'ose dire, remet l'église au milieu du village méthodiquement. Il est spécialiste des États-Unis, Pape Ndiaye, des tensions raciales, et à propos de nous, il dit ceci. Il existe bien un racisme structurel en France, par lequel des institutions comme la police peuvent avoir des pratiques racistes. Oui, mais les citoyens peuvent attaquer l'État et gagner. Donc, s'il y a du racisme dans l'État, il n'y a pas de racisme d'État. Il faut lire Le Monde et Pape Ndiaye. C'est la condition sine qua non pour que nous autres, citoyens, puissions agir en conscience.
Et puis il y a aussi, Claude, pour finir, des hommes de pouvoir dans les journaux.
Avec un destin splendide, celui de Cyril Ramaphosa, raconté dans Libération, un milliardaire d'Afrique du Sud qui va sans doute présider un pays fracturé d'injustice. Mais les hommes de pouvoir, Nicolas, sont parfois moins tout-puissants que fragiles et donc d'autant plus inquiétants. Dans Libération encore, qui publie tous chaque semaine des articles choisis du New York Times, vous découvrirez l'absolue vacuité de l'existence de Donald Trump, 4 heures par jour devant la télévision, iPhone à la main pour tweeter, un homme qui se prend pour un titan et qui rêverait qu'on le prenne au sérieux. Mais surtout, on lira, c'est dans le Figaro, un grand reportage sur le pays d'un président impotent. C'est l'Algérie d'Aziz Bouteflika, octogénaire reclus dans la cité balnéaire de Zeralda. Mais sous ce vieil homme, un pays de l'Algérie s'étiole ou rage. Et le Figaro raconte cette rage, on l'appelle là-bas la Hogra. Elle s'exprime sur Internet, elle est portée par des jeunes gens qui clament sur YouTube. Il s'appelle Azistina ou Desert Joker, des aides-jokers qui dénoncent que le fait que l'on construise des mosquées dans ce pays au détriment des hôpitaux, cela nous dit quelque chose. Des aides-jokers, c'est un homme, un vrai, disent ses admirateurs du quartier de Bab El Oued. Voilà la colère des gens, les gens, comme ici, tout simplement.
Claude Askolovitch, merci pour cette revue de presse. Dans un instant, le retour de notre invité, Charles Duchesne. Et comme tous les mardis, juste avant 8h, on retrouvera Alex Vizorek. Bonjour Alex.
Bonjour Nicolas. Alors ça parle corruption aujourd'hui et donc je vais probablement faire avancer le débat. Puisque moi je vais parler des peines à appliquer. Parce que là j'ai quelques petites propositions et ça pourrait peut-être aider Monsieur Duchesne.
On écoutera ça avec plaisir.